téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux infos.
Les réseaux sociaux,
il est très cher. C'est très important. Ouais.
Bonjour à tous, c'est lundi et l'instant M, c'est reparti.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Alors Sonia De Villers, qu'on embrasse, m'a confié très provisoirement les rênes de son émission, mais rassurez-vous, vous la retrouverez fidèle au poste dès la semaine prochaine. En attendant, je suis ravi d'être ici avec vous ce matin pour un instant M avec un M comme « Mais dis donc, c'est quoi ce micmac avec le temps de parole des candidats à l'élection présidentielle dans les médias ? Combien de temps qui cause ? Qui c'est-il qui tient les compteurs ? Et puis contrôler le temps de parole des politiques, est-ce que c'est vraiment nécessaire dans une démocratie ou est-ce que c'est du flicage ? On pose toutes ces questions à notre invitée du jour, une sage Sylvie Pierre-Brossolette. Bonjour à vous.
Bonjour.
Membre du CSA, experte S-questions politiques et S-questions de sablier. On en parle juste après la chronique de Romain Nigita. Bonjour à vous Romain.
Bonjour Bruno.
Expert lui S-série qui va nous faire voyager pas si loin ce matin, juste de l'autre côté du Quiévrain.
L'instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Alors Romain Nigita, vous nous dites qu'un petit vent frais venu de très très près souffle sur nos petits écrans, puisque non pas une, mais des séries belges débarquent à la télévision française.
Et oui, puisqu'après les séries américaines, les séries britanniques, scandinaves et même israéliennes, les séries télé venues de Belgique arrivent sur les chaînes françaises et pas des moindres, puisqu'après France 2 en septembre dernier avec la série policière La Trêve, c'est désormais TF1 qui s'y colle dès ce soir en prime time avec l'excellent thriller Ennemi public, une série belge francophone. Alors tout débute par la libération de Guy Béranger, un tueur d'enfants qui vient d'effectuer près de 20 ans de prison. À sa sortie, il emménage parmi les moines d'une abbaye dans un petit village des Ardennes belges. Mais la population locale est furieuse de voir un ex-assassin s'installer chez elle, d'autant qu'au bout de quelques jours, une petite fille disparaît mystérieusement. Béranger a-t-il replongé ? Mystère.
Voilà, alors les scénaristes se sont très manifestement inspirés de l'affaire Dutroux qui avait traumatisé, on s'en souvient tous, la Belgique. C'était il y a près de 20 ans.
Et oui, ils le reconnaissent puisqu'ils sont partis d'un élément réel de cette affaire. Après sa sortie de prison, Michel Martin, l'ex-épouse de Marc Dutroux, avait été accueillie dans un couvent. Mais la ressemblance s'arrête là, la véritable héroïne de la série, c'est la flic Chloé Muller, une jeune femme qui a elle aussi subi des événements traumatisants dans son enfance. Cela va d'ailleurs donner naissance à une relation ambiguë entre elle et Guy Béranger.
Je vous connais, vous savez. Vous êtes la petite Chloé. La petite fille qui a fait la une des journaux il y a 20 ans. Vous avez les cheveux courts maintenant. Je ne me rappelle plus si vous les aviez aussi courts avant. Ces grands yeux noirs, c'est triste. Cette histoire, ça a dû être terrible.
Profitez bien de la vue.
Je suis content que ce soit vous, Chloé.
Et au cours de l'enquête, ce sont en fait tous les secrets des habitants de cette petite ville qui vont refaire surface. Car bien plus qu'une simple histoire de tueur en série, il s'agit là d'une série dramatique, un peu comme Broadchurch. C'est une réussite, aussi bien dans l'écriture que dans la réalisation, qui parvient à maintenir un rythme effréné tout en restant très humaine.
Alors vous nous recommandez aussi une autre série belge, Romain, qui arrive le 2 mars sur Arte.
Et celle-ci s'appelle Beau Séjour, elle nous vient de Flandre. Elle aussi commence par un meurtre dans une petite ville, mais l'adolescente assassinée revient sous la forme d'un fantôme. Un fantôme qui va enquêter sur sa propre mort. Alors une poignée de personnes peuvent encore la voir et l'entendre. Pourquoi sont-ils responsables de ce qui s'est passé ? C'est ce qu'elle va essayer de comprendre. Alors petite déception si vous êtes des amateurs de fantastique, parce que malgré son fantôme, Beau Séjour n'a pas grand-chose de surnaturel. Il s'agit là aussi de la description d'une petite ville où tout le monde connaît tout le monde. Le rythme est certainement moins trépidant que celui d'Ennemi public, mais les personnages sont tout aussi touchants.
Et Romain, j'ai une dernière question avant de vous laisser filer. Comment est-ce que vous expliquez cet avènement, cet engouement pour les séries belges ?
Eh bien Bruno, aujourd'hui, les séries étrangères, notamment américaines, sont de plus en plus disponibles en simultané à l'échelle mondiale via des plateformes par abonnement ou même via le piratage illégal. Donc pour ne pas être dépassées, les chaînes locales sont obligées de muscler leur production originale. Et ces deux séries dont on vient de parler bénéficient d'un soutien financier public très important. Dans le cas d'Ennemi public, il s'agit d'un plan très ambitieux mis sur pied par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la RTBF, l'audiovisuel public. C'est un fonds qui s'était élevé à près de 15 millions d'euros ces 4 dernières années. Et ça marche, puisqu'Ennemi public a été vendu dans plusieurs pays d'Europe. Et la RTBF a annoncé très récemment que 17 nouvelles séries étaient actuellement en développement. Elles se sont toutes du même niveau, moi je dis vivement.
Voilà, et puis des séries belges pour la télévision française, figurez-vous qu'en 1981, déjà le chanteur Renaud en avait rêvé.
Et maintenant qu'on est socialiste, fini les feuilletons américains, on veut les feuilletons soviétiques, et même des belges, il y en a des biens, il y en a un, c'est c'est l'histoire d'une frite qui est amoureuse d'un communiste.
Une frite amoureuse d'un communiste, les scénaristes ont depuis bien progressé et on s'en félicite.
L'instant M, Bruno Donnet.
Alors, Sylvie Pierre-Brossolette, vous faites partie des sages du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous connaissez parfaitement la vie politique puisque vous l'avez couverte, chroniquée, éditorialisée, notamment au magazine Le Point, dont vous avez été la rédactrice en chef. Le temps de parole des candidats à l'élection présidentielle, on le comptabilise et on l'encadre depuis.
Ça fait depuis que le régulateur existe, et tant mieux, parce que beaucoup de pays qui n'ont pas ce contrôle, quelquefois, en auraient rêvé. Vous savez, certaines élections américaines récentes, si elles avaient été régulées, peut-être ce serait passé autrement. Et donc, en France, nous avons le CSA et nous avons eu ses prédécesseurs qui ont été chargés de réguler, pendant les campagnes électorales, mais aussi hors campagne électorale, les temps de parole, pour que chacun dans cette démocratie puisse avoir une chance d'exprimer son point de vue. Nous veillons au pluralisme des courants d'idées dans ce pays.
Alors si je vous pose cette question, c'est parce que j'ai l'impression que ça fait des lustres qu'on entend les candidats et les journalistes se plaindre de ce problème d'équilibre. Écoutez cette petite archive sur laquelle on a mis la main. On est en 1978, au mois de mars pour être précis, et Georges Marchais s'engueule déjà avec son meilleur ennemi, Jean-Pierre Elkabbach.
Écoutez, Elkabbach, c'est, je crois, une soirée suffisamment sérieuse. Si vous pensez que ma place n'est pas souhaitable puisque la droite, elle a gagné, moi je laisse la place à la droite et je vais ailleurs. On me demande ailleurs, je peux y aller. Parce que c'est extrêmement désagréable de discuter avec vous. Je crois que les syndicats ont raison de protester contre le fait que l'information avec vous sur Antenne 2 a du mal à s'exprimer.
Voilà Jean-Pierre Elkabbach qui se fait tancer, taper sur les doigts par Georges Marchais. Sylvie Pierre-Brossolette, comment le CSA s'y prend-il très concrètement pour surveiller tout ce qui est diffusé à la fois à la radio et à la télévision? Il y a combien de personnes qui font ça chronomètre à la main?
D'abord, ce sont les chaînes, les éditeurs radio et télévision qui font des déclarations. Ils comptent eux-mêmes, je sais bien que c'est lourd, mais c'est le prix de la démocratie. C'est quelque chose qui garantit que chacun puisse avoir un accès équitable à l'antenne. Je vous rappelle que les chaînes de télévision et de radio avaient protesté lors des dernières élections présidentielles sur l'incapacité qu'elles avaient à faire vivre le débat parce que il devait y avoir un temps de parole égal pour tout le monde. À ce moment-là, ça c'est facile.
Combien de personnes surveillent chez vous ?
Une quinzaine. On a dû embaucher, évidemment, pour pouvoir vérifier, parce que ça sert à rien de demander des déclarations à des chaînes si on ne va pas les vérifier. Donc il y a des équipes qui travaillent parfois jour et nuit, le week-end, pour pouvoir le plus vite possible, en temps réel, restituer aux électeurs, aux citoyens de ce pays, les résultats de la semaine ou des 15 jours précédents.
Ça veut dire les 15 personnes dont vous parlez, elles contrôlent les papiers que vous envoient les chaînes de télé et les stations de radio.
Oui, nous nous sommes entendus avec elles, nous avons eu beaucoup de réunions de travail pour que dans les mêmes formats Excel, pardon, de ce jargon un petit peu technique, mais pour que les données soient exploitables le plus vite possible, elles nous les transmettent et dans les 2-3 jours qui suivent, on travaille le week-end, le lundi, le mardi, et chaque mercredi au collège, on vous dira si c'est dans les clous ou pas.
Et c'est ce suivi de semaine ou de la triche.
Il peut y avoir quelquefois une différence d'interprétation, un oubli, tout le monde est humain. Nous regardons, nous discutons avec les chaînes et nous les accompagnons ainsi de semaine en semaine. Vous savez, nous sommes à la fois animés d'un esprit à la fois de bienveillance pour les chaînes qui font un travail difficile et de vigilance parce que nous devons absolument faire respecter le pluralisme pour qu'à la fin de chaque période, tout le monde ait pu avoir son dû.
Alors Sylvie Pierre-Brossolette, on est entré depuis quelques jours dans la période dite de l'équité entre les candidats à la présidentielle. 15 jours avant le premier tour viendra la période de l'égalité de traitement. C'est quoi la différence entre équité et égalité ?
Égalité, c'est que chaque candidat a exactement le même temps de parole, le même temps d'antenne, dans les mêmes conditions. Dans les conditions de programmation exactement comparables.
Ça, c'est 15 jours avant.
Ça, c'est les 15 derniers jours. on s'est aperçu que c'était une règle à la fois formidable pour tous les candidats, mais pas formidable du tout, puisque du coup, les chaînes renonçaient à faire apparaître les candidats, parce qu'à chaque fois, c'était
des tunnels. Il y a 5 ans, la politique a été totalement sous-traitée.
Complètement squeezée. Donc, à la demande des chaînes elles-mêmes, le Parlement a accepté de modifier la règle et d'étendre la période d'équité.
Alors, c'est quoi la différence ?
L'équité, c'est que tout le monde n'a pas exactement le même temps de parole, mais que tout le monde doit y avoir accès. Pas autant. Certains peuvent avoir un quart d'heure, d'autres peuvent avoir 3 minutes.
Comment on fait pour placer le curseur
de leur représentativité. Comment mesure-t-on la représentativité?
Merci de me précéder.
Voilà. Et comment mesure-t-on, parce que c'est l'autre élément, la capacité à faire campagne et de manifester son intention d'être candidat. Alors, il y a évidemment plusieurs critères. Vous connaissez évidemment celui des sondages, celui du nombre d'élus, de catégories d'élus qui vous soutiennent. Et puis dans la capacité à faire campagne, il y a les meetings qu'on fait, les réseaux sociaux qu'on anime, les débats auxquels on participe. Et tout ça, c'est multifactoriel. Cela permet aux chaînes de radio et de télévision de se faire une idée à un moment donné où en est un candidat, parce que il se peut très bien qu'un candidat au début d'une séquence n'ait pas beaucoup de soutien politique, n'ait pas un parti qui le soutienne, mais tout d'un coup émerge parce que grâce aux réseaux sociaux, une bonne formule, une bonne réunion publique, ses sondages montent, donc il a le droit à plus. À l'inverse, il peut y avoir des gens qui n'ont pas des très bons sondages, mais qui ont beaucoup d'élus derrière eux, ils ont le droit aussi. Donc c'était un mélange de critères, et qui peu à peu peut évoluer pendant la campagne. Peut monter, on peut descendre.
Sylvie Pierre-Brossolette, il y a une grande nouveauté cette année, c'est que le temps de parole qui est mesuré par le CSA ne concerne plus seulement les candidats et leurs entourages, mais également, ça c'est très nouveau et très important, les commentaires des journalistes et des éditorialistes. Pourquoi cette nouveauté? Est-ce que parler d'un candidat, c'est nécessairement faire du prosélytisme?
Non, l'idée, c'était d'éviter des bulles médiatiques qui faussaient complètement l'égalité entre les candidats. Imaginez, il y a un candidat qui fait que 2-3 minutes de temps de parole, mais avec une grosse formule qui fait un buzz terrible. Après, on a des heures et des heures de débats uniquement sur ce ou cette candidate. Et du coup, les autres candidats dont on aurait compté que le temps de parole, ce serait senti complètement désavantagé. Donc on le dit, il faut la formule exacte pour décompter le temps d'antenne de ces candidats, c'est l'ensemble des séquences qui, pour l'essentiel de leur durée, concernent un seul candidat et ne leur sont pas explicitement défavorables. Donc c'est quand il y a
quand
comme
un
ça, concentré
fait dans sa revue de presse,
un ou plusieurs
par exemple,
journalistes
raconte quelque chose,
oui.
C'est décompté.
Oui, quand c'est...
Si dans la revue de presse de France Inter, on raconte le meeting d'Emmanuel Macron qui a duré 2 heures ce week-end, c'est décompté.
C'est décompté. Ça n'est pas décompté quand c'est explicitement défavorable. Et ça n'est pas décompté quand il y a un débat à plusieurs, ou quand un éditorialiste parle de plusieurs sujets en même temps. Mais quand vraiment il y a un bloc, une séquence qui est essentiellement consacrée à un candidat, et qui ne lui est pas défavorable, on le compte. C'est plus juste. C'est uniquement pour que ça soit plus juste pour tout le monde.
Il y a quelqu'un que cette nouveauté agace prodigieusement. Il s'appelle Daniel Cohn-Bendit. Il s'est énervé contre le CSA, qu'il a rebaptisé sur l'antenne d'Europe 1. C'était vendredi dernier, écoutez-le.
Pour les journalistes, les éditorialistes, ça ne veut absolument rien dire. On aura une police des ondes. On aura, vous savez, le CSA, ça devient la commission sécuritaire des médias.
Sylvie Pierre-Brossolette, vous êtes flic ?
J'ai connu Daniel Cohn-Bendit un peu moins flic. Franchement, j'aimerais discuter avec lui, il se trompe. Nous n'avons absolument pas un esprit flic. Loin de là, nous avons un esprit de justice pour pouvoir faire vivre tout le monde, faire vivre le débat d'idées, faire vivre le pluralisme. Ça, c'est ça notre boulot, c'est vraiment pas l'inverse. Et donc s'il n'y avait pas ces règles, imaginez-vous, il y a quelques années, quand il y avait la Voix de la France ici, eh bien, vous n'étiez pas très heureux, et les candidats non plus. Donc, depuis qu'il y a des règles, et qui sont en plus assouplies depuis la dernière fois, qui donnent plus de liberté aux chaînes, vraiment, ça serait injuste de dire que c'est du flicage. Au contraire, c'est de la liberté et de la justice donnée aux candidats et à la démocratie de la France.
Sylvie Pierre-Brossolette, est-ce que le risque avec cette modification, c'est pas de faire des listes de journalistes qui suivent tel ou tel candidat et qu'on pourrait assimiler à des amis ou à des ennemis d'une formation politique ou d'une autre?
Mais on ne fait pas de liste de journalistes. On compte des séquences. Les séquences seront transformées en minutes dans des tableaux et des additions de minutes. Qu'est-ce que vous voulez fliquer un journaliste quelconque là-dedans ? On publiera des tableaux chaque semaine du nombre de minutes dont aura bénéficié un candidat. C'est tout.
Comment peuvent faire les émissions ou les chaînes sur lesquelles certains candidats refusent d'intervenir ? Je vais vous faire écouter quelque chose. C'était il y a quelques jours, Yann Barthès sur TMC a expliqué, après avoir reçu tous les candidats à la primaire de la gauche, qu'il était dans l'incapacité d'en recevoir un.
Nous avons évidemment invité Manuel Valls. Une trentaine de fois, il persiste à ne pas trouver 15 minutes dans son agenda pour venir répondre à nos questions. Il sera donc le seul candidat à ne pas avoir participé à cette émission. C'est son droit. Mais c'est bizarre.
Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un ne veut pas venir ?
Quand un parti ou une personne ne veut pas se présenter à une émission ou la refuse et que c'est assez systématique, eh bien nous en tenons compte dans les temps de parole et dans les remarques que nous pouvons éventuellement faire aux chaînes. À l'impossible, nul n'est tenu. Si une émission ou une chaîne se voit refusée par un candidat sa venue tout au long d'une période, on ne peut pas reprocher à la chaîne de ne pas avoir des temps de parole corrects pour ce candidat ou ce parti, comme ça a pu se passer. Eh bien, nous en tenons compte. Nous ne sommes ni sourds ni aveugles. Nous sommes pragmatiques et donc on en tient compte.
Sylvie Purbeau-Solette, pour quelles raisons les contraintes que le CSA impose à la télé et à la radio ne s'appliquent-elles pas à la presse écrite ou aux médias en ligne ?
Les chaînes de radio et télévision que nous régulons et auxquelles ces chaînes, ces règles s'appliquent, bénéficient de fréquences gratuites qui ont en contrepartie le fait d'être contrôlées. On ne peut pas permettre à la démocratie d'être complètement confisquée par des forces qui seraient ou politiques ou du ou économiques. Il y a un moment où la contrepartie de l'obtention de chaînes de télé et de radio via des fréquences hertziennes données par la puissance publique fait qu'on respecte quelques règles. Et c'est l'honneur de la France que de faire respecter à la télévision et à la radio le pluralisme.
Et ce sera le dernier mot. Merci infiniment Sylvie Purbeau-Solette d'être passée par ici. Et bonjour à vous, Ali Rebéi.
Bonjour Bruno Donnet.
Avec quel thème allez-vous nous faire grand bien ce matin ?
Eh bien ce matin nous recevons la professeure Patricia Paterlini-Bréchaud, cancérologue qui publie « Tuer le cancer » et qui a mis au point avec son équipe un test sanguin qui permet de détecter les cellules tumorales. Nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000 et par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com.
Et on vous retrouve juste après les infos.